Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans la JT du local, votre émission autour de l'actualité mayonnaise sur l'autre radio. Et on va parler aujourd'hui de ce nouveau café mortel proposé à Château-Gontier demain soir, à l'occasion justement de traiter le sujet de la mort et comment on accompagne ceux de nos proches, un sujet souvent tabou, dédramatisé par justement ce rendez-vous. C'est en tout cas l'objectif, on va en parler avec l'une des intervenantes lors de ce café mortel. Demain. Et puis comme chaque jeudi, on part dans le grand bus des reportages pensées locales et notamment ici en Maine-et-Loire avec une compagnie qui propose justement du spectacle en itinérance. Ils nous expliqueront comment et pourquoi c'est important aussi pour le territoire du nord-est du Maine-et-Loire. Ça, ce sera plutôt dans une deuxième partie de cette émission. Mais d'abord, on commence par un rapide point sur l'actualité. Réunira-t-il autant de manifestants? Question pour ce rassemblement contre la réforme des retraites prévue ce mardi 31 janvier par l'intersyndicale mayonnaise. Ce sera à partir de 11h au Square de Boston à Laval. Nous sommes unis et déterminés pour faire comprendre au gouvernement que la majorité des Français rejette cette réforme, expliquent les syndicats dans un communiqué, alors que le premier rassemblement, il y a tout juste une semaine, avait réuni près de 8000 manifestants à Laval. Les sacs jaunes pour recycler les emballages collectés désormais toutes les semaines sur le pays de Château-Gontier. Ils sont ramassés en même temps que les ordures ménagères du bac gris depuis début janvier. Alors que les chiffres du tri sont déjà très bons sur le territoire, l'objectif est encore de les améliorer puisque la collecte est passée de 540 tonnes de sacs jaunes en 2015 à 900 tonnes en 2022 avec un taux de refus de tri de l'ordre de 5 à 6% seulement. Importante pour l'orientation des futurs étudiants et étudiantes, les instituts de formation de l'hôpital de Laval organisent leurs portes ouvertes ce samedi, l'occasion de découvrir ces formations d'aides-soignants en ergothérapie et en masso-kinésithérapie. Ce sera de 9h à 16h samedi. Portes ouvertes également à l'IUT de Laval ce samedi de 9h à 16h30 autour des différentes formations en génie biologique, en informatique, en métier du multimédia et de l'internet et en technique de commercialisation. Et puis toujours sur le campus lavallois, le midi, le Crous proposera ses services aux étudiants et les présentera. Et de 3 pour l'équipe de France de futsal. Troisième match à Laval pour les Bleus, cette fois-ci contre la Serbie. Ce sera dans un petit peu plus d'un mois, le mardi 7 mars à 21h à l'Espace Mayenne à Laval. Donc, dernier match du tour principal des qualifications à la Coupe du Monde 2024. La billetterie ouvre aujourd'hui au grand public sur le site billetterie.fff.fr. Les Bleus qui étaient sortis vainqueurs de leur dernier match contre la Croatie et la Norvège à Laval. Des pinsons, des rossignols ou même des mouettes rieuses, c'est le moment de les observer ce week-end à l'occasion du grand comptage national des oiseaux de jardin. Ce sera ce samedi et dimanche. Le principe est simple, il vous faut compter et noter les espèces d'oiseaux observées dans votre jardin ou dans un jardin public durant une heure et ensuite inscrire ces données relevées sur le site oiseauxdesjardins.fr en effet. On va faire une petite pause en musique, non pas en écoutant des chants d'oiseaux, mais Bruce Springsteen avec Letter to You, avant de parler de ce café mortel organisé pour la première fois à Château-Gontier demain soir.
Tried to summon all that my heart finds true and send it in my letter to you. Send it in my love.
I took all the sunshine and rain. All my happiness and all my pain. The dark evening stars and the morning sky of blue. And I sent it in my letter to you. And I sent it in my letter to you. In my letter to you, I took all my fears and doubts. In my letter to you, all the hard things I found out. In my letter to you, all that I found true. And I sent it in my letter.
Letter to You, c'était bien sûr Bruce Springsteen dans l'AJT du local. Vous êtes toujours à l'écoute de l'autre radio sur le 107.9 à Château-Gontier et le 101.7 à Laval. Et comme prévu, bien sûr, c'est le moment de passer à l'interview avec cette phrase d'accroche du Café Mortel. La vie, la mort, le deuil, on ne mourra pas d'en parler. Évidemment, Café Mortel organisé demain soir à Château-Gontier au bistrot à partir de 19h. C'est une première voulue par le collectif Mortel pour échanger sur les manières de dire au revoir à nos proches, le tout dans une ambiance qui se veut conviviale pour lever les tabous. Explication avec l'une des animatrices de ce Café Mortel.
Donc, je m'appelle Jézabel Koguyek, je suis autrice et comédienne et j'habite à Château-Gontier.
Et vous faites partie de ce collectif Mortel qui lance à Château-Gontier, ce sera le 27 janvier, le premier Café Mortel pour parler de la mort, comme son nom l'indique tout simplement. Déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est né ce collectif ?
Alors ce collectif, c'est le fruit de la rencontre de 5 femmes du Grand Ouest, Bretagne et Pays de Loire, qui se sont rencontrées par de diverses manières, mais qui ont tout en commun d'être des militantes autour du sujet de la mort et d'avoir ce désir, cette volonté de libérer la parole autour de ce sujet.
Puisque donc, ce sera une première ici à Château-Gontier, mais ce n'est pas du tout une première en France et même dans d'autres pays européens. En Suisse, apparemment, ça existe déjà depuis quelques années. D'où ça vient ?
Ça vient de la Suisse, justement, d'un monsieur qui s'appelle Bernard Crétaz, d'ailleurs qui est décédé il y a très peu de temps. Donc on a un petit peu réentendu parler des Cafés Mortels ces dernières semaines à l'occasion de son décès, puisque c'est vraiment lui l'inventeur. C'est un monsieur qui, un jour, s'est dit « on va parler de la mort, mais on ne va pas en parler dans un groupe de parole, quelque chose de très formel. On va en parler au café du coin, autour d'un verre. » Et peut-être que les personnes réfractaires à parler de ce sujet, eh bien, parce qu'elles seront au comptoir de dos en train de boire leur verre, elles vont commencer à glaner des petites choses de la discussion qui aura lieu derrière eux et petit à petit s'intéresser à cette conversation et la rejoindre. Il a fait ce pari, en fait, et qui a très bien fonctionné, puisque lui, il en a animé en Suisse pendant des années et des années. Et puis, bah, ça a fait des petits dans d'autres pays. Et en France, ça commence à quand même s'être bien développé dans certaines régions. C'est vrai que par chez nous, c'est un petit peu plus récent, nouveau. Mais on a bon espoir que ça suscite l'intérêt, l'interrogation.
Et alors, comment est-ce que justement, alors vous-même, ou en tout cas parmi les cinq personnes du collectif, vous êtes dix, ça y est, de cette manière-là dont on veut justement en parler, est-ce que vous avez vous-même participé à un café mortel, ou c'est vraiment de se dire, bah, ça fonctionne très bien déjà plein de fois, bon, bah, on va reprendre ce principe-là aujourd'hui à Château-Gontier?
Alors nous, on utilise plusieurs outils. Le café mortel, c'est un des outils qu'on utilise. On organise aussi des journées, on va dire, entières, où on peut inviter des spectacles autour du sujet, inviter des libraires qui vont nous ramener la bibliographie qu'ils ont sur le sujet. Ça peut être aussi autour d'un concert sur cette thématique. Enfin, en tout cas, on est en train de développer plusieurs outils. Donc le café mortel, c'est un des outils possibles et qu'on a trouvé adapté là au territoire et puis au lieu qu'on avait choisi, qui est le bistrot dans le centre-ville.
L'intérêt de ces cafés mortels, c'est de pouvoir aussi parler de la mort sans tabou, en essayant en tout cas de lever tout ça. Sauf que là, j'imagine qu'on en parle, les auditeurs et auditrices qui nous entendent, ils se disent « un vendredi soir, aller parler de la mort, même si c'est dans un bar, ça me tente pas trop ». Qu'est-ce que vous pourrez justement leur dire et leur répondre?
Je leur réponds que, en fait, c'est vrai qu'il faut se motiver à aller un vendredi soir parler de ça. Mais ce qui est bien, c'est d'être armé. Parce que le jour où, en fait, on est confronté à ça, ça va forcément être un moment où on va se retrouver démuni parce qu'on est dans notre chagrin et c'est normal. Et ce jour-là, en fait, on n'est pas armé, en fait, pour forcément faire des choix éclairés. Et on va facilement subir, en fait, les choses, subir la cérémonie qu'on nous propose, même si elle nous convient pas, subir un certain nombre de choses. Et le but de ce café, c'est justement d'éveiller les consciences des gens et de les rendre plus autonomes aussi sur cette question. Et le jour venu, s'ils se retrouvent confrontés à un décès, de pouvoir se dire « Ah bah oui, peut-être que je peux faire ça, ça me ressemble mieux ou ça ressemble mieux à la personne que j'ai décidé d'honorer, la personne que j'ai perdue. » C'est vraiment redonner le pouvoir aussi, quelque part, aux citoyens par rapport à ce moment et puis se dire qu'il n'y a pas qu'une manière possible, on n'est pas condamné à dire au revoir à quelqu'un en 20 minutes chrono dans un crématorium. Il y a d'autres manières de faire qui ne sont pas forcément connues aujourd'hui ou qu'on ne s'autorise pas forcément à mettre en place. Et c'est tout ça qu'on essaye de développer dans ce moment, en fait.
Justement, je rebondis sur ce que vous dites. En général, c'est quand même... Il y a beaucoup de rites autour de la mort, alors qu'il y ait des croyances ou pas d'ailleurs, mais c'est beaucoup de rituels et beaucoup de cérémonies ou d'hommages qui se ressemblent, parce qu'effectivement on se dit que de toute façon il y a une marche à suivre. Et justement vous dites que non, si finalement la personne, on peut lui rendre hommage d'une autre manière qui lui correspond plus, c'est possible aussi. C'est ça l'idée ?
Il y a des passages obligés, puisqu'il y a une législation et qu'on doit la respecter. Mais dans ces passages obligés, il y a finalement plus de liberté qu'on ne le croit. Et on peut très bien imaginer d'autres temps, d'autres espaces pour réinventer aussi des rituels qui nous ressemblent. Ça ne veut pas dire renier les rituels existants, en fait. Tout ça est totalement compatible.
Par ces cafés mortels, l'idée, c'est aussi que ce soit assez... c'est des échanges, de toute façon, j'allais dire assez interactifs. C'est même le cœur du sujet, c'est interactif, ce sont des échanges. Et ce sera basé aussi sur des questions. On peut venir si on a des questions précises en
Bien
tête.
Sûr, oui. Et dans le collectif, en plus, il y a à peu près la moitié des membres du collectif qui s'est formé au métier de conseiller funéraire. Ça veut dire qu'on est aussi en mesure de répondre à des questions qui ne sont pas de l'ordre de la cérémonie, mais qui sont plutôt justement de l'ordre de la législation ou tous ces aspects aussi un peu techniques. Et bien sûr, les personnes peuvent venir avec des questions, c'est fait pour ça. Et effectivement, on est, comme tu disais, pas dans une On n'est pas dans un groupe de parole, c'est pas une discussion qui est formelle. On est vraiment dans un échange avec les ressentis de chacun. Et nous, on essaye aussi d'amener à chaque fois le café mortel d'une manière un petit peu originale. Soit avec justement un petit rituel ou un petit jeu ou de la musique. Enfin voilà, en tout cas, on amène toujours ça aussi avec notre la touche un peu aussi qui caractérise ce collectif.
Donc avec, puisque vous avez chacune des parcours aussi différents, oui. C'est ce qui enrichit peut-être aussi ce groupe et les interventions et ces cafés mortels.
Oui, tout à fait. Et puis nous, on apprend aussi, on continue d'apprendre aussi les unes des autres en organisant ces moments-là ensemble.
Vous disiez que ça faisait partie aussi chacune de vos engagements, vraiment. Pourquoi c'est si important, justement, pour vous ?
En fait... Quand on creuse un petit peu la question du deuil, sans avoir besoin de lire des tas d'ouvrages de psychologie, tous les auteurs s'accordent sur ça. C'est que une cérémonie ratée ou dont on est déçu, c'est un très mauvais départ en fait pour commencer son chemin de deuil. Donc ça a été aussi notre postulat de départ, c'est de se dire on entend trop autour de nous de gens qui sortent de funérailles en nous disant « Oh là là, c'est pas possible, là je viens d'enterrer mon oncle, voilà, c'était tellement morne comme cérémonie » ou alors « J'ai encore entendu la citation de Malraux que j'ai déjà entendue aux funérailles de ma cousine » ou enfin voilà, on a plein en fait de témoignages dans ce sens, de gens qui vivent mal ce moment, et notamment parce que, justement, ils ont tendance à le subir et à pas forcément en être acteur. Et le but aussi, c'est d'ouvrir la parole dans une famille, c'est-à-dire il s'agit pas de tout forcément balisé pour son départ, et parce que c'est aussi le rôle des vivants d'organiser les funérailles, c'est pas celui qui va partir de tout cadenasser, de tout verrouiller. Mais par contre, ça peut être de libérer la parole au sein d'une famille en disant c'est pas glauque d'en parler ensemble. Moi, j'ai envie de vous dire ce que je veux et ce que je ne veux pas pour le jour où je partirai. Et on espère aussi que ce café mortel, il permettra aussi de déverrouiller la parole en famille. Donc si les gens veulent venir en famille, c'est aussi le bon endroit pour ça, parce qu'en fait, ils vont être témoins d'une même conversation, d'un même discours.
Et est-ce que c'est plus facile, peut-être aussi, quand on entend quelqu'un qui se confie, sans forcément aller dans des choses très très intimes, mais de aussi partager son ressenti, son vécu, et lorsqu'il y a effectivement ce lieu, enfin ce moment fait pour, plutôt que le fromage et le dessert, de parler de ça, c'est pas toujours évident, j'imagine, en famille ou autre.
Oui, c'est vrai, et surtout qu'il y a quand même un vrai... tabou social, parce qu'en fait, les chiffres, alors je les ai plus en tête, mais c'est quand même assez énorme le pourcentage de la population qui est en deuil, en fait. Et sauf qu'en fait, socialement, il y a, on va dire, une période de tolérance où on se dit, bon, la personne, ça y est, ça fait 3 mois ou 4 mois qu'elle a perdu son père ou sa mère, ou voilà, faut qu'elle passe à autre chose. Il y a beaucoup d'injonctions comme ça sociales, et même dans notre langage, on va dire le travail de deuil, voilà, enfin c'est il y a des expressions comme ça un peu terribles, et on se rend compte que finalement le tabou, il est pas que sur la mort, il est aussi parler de nos morts. Il y a des gens qui en fait sont pas forcément vont pas forcément pour autant se déverser dans leur chagrin, mais ils vont avoir plaisir à parler des gens qui leur manquent. Et en fait, ils n'ont pas forcément d'espace pour ça non plus. Pourquoi on convoquerait facilement les vivants quand on donne des exemples dans nos conversations, en parlant de tout et de rien, en disant « bah oui, tiens, un tel, il fait ça ». Et pourquoi on ne peut pas convoquer en fait les absents de la même manière, aussi naturellement en fait ?
À qui vous diriez que ça peut s'adresser justement ce café mortel, pour résumer ?
Ça s'adresse à tout le monde vraiment, parce que là en plus celui-là il est vraiment axé sur la question des funérailles. Ça veut pas dire que ça va pas forcément s'ouvrir vers d'autres choses, mais on est vraiment sur les funérailles, donc ça concerne quand même plusieurs générations, puisque il y a la génération de ceux qui partiront, il y a la génération de ceux qui peuvent perdre un parent, enfin puis de toute manière personne n'est à l'abri en fait de se retrouver confronté à la mort, donc c'est vraiment ouvert à tout le monde.
Et donc ce café mortel qui aura lieu demain soir à 19h au bistrot à Château-Gontier. Pour tout renseignement, vous pouvez bien sûr appeler le 06 83 31 79 90 ou vous rendre sur la page Facebook Collectif Mortel, tout simplement. Et sachez qu'un spectacle aura lieu un petit peu plus tard, ce sera le vendredi 10 mars à 20h à Aurigné. Il s'appelle Mouchka de la compagnie Autrement dit, sur le même thème, et il sera suivi d'une discussion philosophique avec les spectateurs. Écoute Aaron Taylor tout de suite avec Help avant de passer à notre cycle de reportage Pensée locale.
Thank you.
Pulp, Aaron Taylor dans l'AJT du local sur l'autre radio. C'est bien sûr ce que vous venez d'écouter. On passe évidemment à notre cycle de reportage Pensée locale réalisé avec différentes radios associatives des Pays de la Loire. Et aujourd'hui, on part en Anjou où la compagnie Mesdemoiselles part à la rencontre du public avec le projet mobile des actions culturelles sous chapiteau en itinérance sur le département du Maine-et-Loire depuis 2021. Il regroupe à la fois diffusion de spectacles, résidences artistiques, mais aussi ateliers de médiation et infusion artistique. On va voir ce que ça recouvre grâce au reportage de Michel Boutreux de RPSFM à la rencontre de Clara Lerut.
Pensée locale, un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire.
On va parler d'une compagnie et j'ai à côté de moi Clara Lerut, chargée de production de cette compagnie, qui va nous présenter la structure, nous dire comment elle est née. Bonjour. Alors c'est quoi les Mesdemoiselles ?
La compagnie Mesdemoiselles, elle est née en 2008. Elle a été créée par Claire Nouteau et Laure Bancillon, qui sont donc artistes de cirque et qui se sont rencontrés à l'école supérieure de Fratellini à Paris. Et donc la compagnie Mesdemoiselles, c'est une compagnie donc de cirque aérien avec cordes lisses et cordes volantes. Et tous nos spectacles sont créés pour la rue. Donc on est aussi une compagnie d'art de rue. La compagnie s'est installée en 2008 aux Ulmes, à côté de Douai-la-Fontaine, où elle a monté un lieu de résidence, un lieu d'accueil pour les artistes. Et il s'est passé pendant longtemps des rendez-vous artistiques, donc des spectacles. Et après est née l'envie en fait que nous, on aille à la rencontre des habitants et que ce ne soit pas les habitants qui viennent dans un lieu fixe. Et donc on a acheté un chapiteau qu'on a appelé mobile. Et l'idée de ce chapiteau, c'est de sortir trois fois par an dans des territoires ruraux et d'aller à la rencontre des habitants. Vraiment, ce projet, il est différent à chaque nouvelle édition, à chaque nouvelle implantation, puisque c'est un rendez-vous d'action culturelle et artistique. Et en fait, le programme, il est créé avec les habitants. On rencontre les associations, on rencontre les compagnies du territoire, les mairies, les communautés de communes, on va rencontrer les cinémas, voilà. On fait un premier appel et c'est en fonction de ces rencontres qu'on va créer un programme. Donc on va avoir des compagnies de théâtre, on va avoir des concerts, on va avoir des artistes de cirque évidemment, parce que ça nous plaît de programmer du cirque. Là par exemple, à Beaugé en Anjou, on a des rendez-vous un peu insolites. On va avoir du light painting et de la réalité virtuelle. Et ça c'est une proposition du centre social. Donc nous on leur accorde dans le calendrier des soirées. Ils font des propositions et nous on est juste là pour les accompagner et leur offrir un lieu éphémère. C'est pour ça qu'on propose aux habitants de participer dès le montage du chapitre. Donc, il est annoncé dans le flyer à chaque fois pour que les gens viennent voir en fait la montée de la toile et comment elle se déplie et participer voilà, dès le début du projet, à installer les caravanes, à installer le chapiteau et s'approprier justement cet espace. Bah, justement, on voulait jouer là-dessus, sur ce côté assez populaire, assez joyeux du chapiteau. Mais voilà, casser un peu l'image du cirque traditionnel et proposer plein de rendez-vous complètement différents sous ce chapiteau. Oui, on fait beaucoup d'attentes. Qu'on appelle atelier de médiation, c'est plutôt des ateliers où chacun est libre d'essayer. Donc on essaie les agrès, là on essaie le trapèze ou le tissu. Et après il y a tout un côté où ça va être plutôt des ateliers au sol. On essaie d'avancer ensemble, d'avoir quelque chose de rythmé. Mais c'est vraiment pour se sentir dans le groupe, avoir confiance en soi et après aller essayer les agrès. On n'est pas ici pour créer un spectacle, mais on est là pour essayer. Alors il y a toute une équipe administrative, donc comme je disais, il y a Claire et Laure qui seront plutôt à la direction artistique, à la direction en général de l'association et de la compagnie. Ensuite, donc, il y a moi à la production et coordination. Donc moi, je vais réfléchir beaucoup en termes d'agenda et en termes de budget un petit peu. Voilà, je vais essayer de cadrer les idées. Je suis là pour les traduire, en fait, traduire une idée en projet viable. Ensuite, on a Delphine qui, elle, va être plutôt sur l'aspect financier. Donc, elle va faire les contrats, les payes, les dossiers de subvention. Et évidemment, derrière, on a toute une équipe technique. Donc on a Donatien et Tom qui voilà, traduisent aussi le projet en technique, mais aussi de toute l'installation du site. Donc les gars, ils sont là en amont parce que pareil, souvent, on a envie de faire plein de choses, mais il y a des choses qui techniquement ne sont pas possibles. Donc ils vont aussi réfléchir où est-ce qu'on met le chapiteau dans la commune, comment c'est possible, comment on se raccorde en eau, en électricité. Voilà. Bien sûr, il y a toute une équipe de bénévoles qui sont beaucoup là pour plein de petites choses, beaucoup pour la cuisine. Ils tiennent le bar, la petite restauration et nous aide à installer tout ça, évidemment. J'ai fait un parcours plutôt social avant, où j'ai travaillé en petite enfance et beaucoup en centre de loisirs et en collège. Progressivement, j'ai commencé à monter des projets qui alliaient et le social et le culturel. Et au fur et à mesure de mes études, j'ai commencé à me diriger vraiment vers le culturel. Et progressivement, je suis arrivée vers le cirque. Et puis, en fait, tout simplement, j'ai postulé à la compagnie Mesdemoiselles. Et je suis arrivée ici. Et dans nos bénévoles, on a des enseignants, des profs de techno, d'anciens fonctionnaires. Et la compagnie Mesdemoiselles a également un site, donc compagniemesdemoiselles.fr.
Michel Boutreux, RPSFM.
C'était Pensée locale, un enjeu de société. Une émission de La Frappe, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
Reportage que vous pouvez bien sûr réécouter sur notre site l'autreradio.fr en podcast en cherchant Pensée locale tout simplement ou dans le podcast de cette émission qui touche à sa fin. Et oui, pour aujourd'hui, l'AJT du local c'est fini. Restez bien sûr sur l'autre radio puisqu'à 19h, la sagesse de Tug revient avec une question a priori simple, nous disent les animateurs. La technique permet-elle de ne plus avoir peur de la nature ? Et puis ce sera suivi à 21h de l'émission All Blues avec un hommage notamment à Jeff Beck et Marcel Zanini. Et nous, on revient demain, toujours à 12h15 pour la dernière émission de la semaine. Je vous souhaite une très belle journée et donc à demain.